pour cet après-midi d'enseignement, de partage de ma part. J'avais envie de vous parler de la confiance. Cette semaine, quand un soir j'étais assis chez moi, tout le monde était au lit, ou c'était peut-être un matin, ah, je pouvais sentir cette tension et cette inquiétude de la marche du monde actuellement. Cette instabilité tout autour, au niveau politique, social, environnemental. Je me laisse parfois happer dans les actualités et ça me prend. Et d'autant plus quand la pensée traverse mon esprit et mes enfants dans tout ça, dans quel monde est-ce qu'ils vont vivre? Et je pouvais voir cette peur qui était là, qui, si je m'engouffrais dedans, ah, pouvait vraiment créer un enfer dans mon esprit et mon corps. Hein, ce mélange de révolte et d'impuissance, d'incompréhension. Et puis à ce moment-là, je me suis rappelé, mais en fait, pourquoi est-ce que je fais tout ça? Où est-ce que je médite et je fais ça depuis si longtemps? Où est-ce qu'elle est la confiance, en fait, dans la pratique? Où est-ce qu'on la trouve? Sur quoi est-ce qu'on peut se reposer vraiment? Et ça a remis les choses un peu en place. Je me suis dit, ah ben tiens, je pourrais peut-être en parler ce week-end. Et si on y regarde au plus profond de nous, on est tous en quête d'une forme de paix intérieure, de sécurité, de stabilité. On aimerait qu'elle soit durable, cette sécurité, cette stabilité, qu'une bonne fois pour toutes, ça soit bon. Hein, que ça soit à l'intérieur, dans nos états, notre moi. Personne, que ce soit à l'extérieur, que ce soit chez les autres. Et il est important de voir dans quoi est-ce qu'on place notre confiance, où est-ce qu'on place notre stabilité, notre sécurité, etc. Parce qu'on le fait tous, on est bien obligés. On peut le faire dans des choses extérieures, on peut avoir confiance dans notre système politique, notre système de santé, dans le système éducatif. On peut placer notre confiance dans nos biens matériels, dans notre maison, notre appartement, notre voiture. Hein, on va pas. C'est clair que si on choisit une voiture déjà qui est complètement déglinguée, elle va avoir un petit peu moins de confiance que si elle est toute neuve. Et puis que tout le monde nous dit qu'elle est très très fiable. On peut placer notre confiance dans la science et du fait qu'elle va, elle va tout résoudre à travers la technologie, l'IA. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. On peut bien sûr placer notre confiance, on place bien sûr, et on le fait, on place notre confiance dans l'autre, en espérant qu'il continue à répondre à mes attentes, à mes besoins, en tout cas un peu. Qu'il change un peu ses défauts. Mais avoir confiance qu'il va le faire, ou que ses qualités vont perdurer. Qu'ils ne changent pas trop. Ou qu'elles ne changent pas trop. Tu as bien sûr la confiance en soi. Cette fameuse confiance en soi. hein, dans ma personne, dans mon intellect, dans ma capacité de raisonner, de trouver des solutions, de répondre aux défis. Confiance dans ce corps, hein, qu'il soit plus ou moins en bonne santé, dans son apparence. Oh, s'il pouvait toujours rester pimpant, ce serait top. Confiance dans notre capacité à gérer le relationnel. Ah, la confiance en soi. À mobiliser nos ressources, à les mettre en action. Et c'est tout à fait naturel de faire ça, on va continuer à le faire. Heureusement que dans ces choses-là, on trouve un peu de confiance, sinon on serait toujours un fébrile, inquiet, figé. Et on en trouve de la confiance et de la stabilité, de la sécurité dans ces choses. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un mais, il y a aussi une forme d'aveuglement en faisant cela. On voit pas très bien ce qu'on fait. Hein, il manque de la conscience et de la compréhension. On voit pas qu'on est en train de mettre tous nos œufs dans le même panier ou dans différents paniers. Il y a ce couplage entre la confiance ordinaire, hein, le fait de mettre notre confiance dans ces choses conditionnées, avec le fait que ces choses peuvent m'apporter une sécurité, une stabilité, une paix durable. Voilà, ma voiture ne va jamais se casser, tomber en panne. Puis le jour où elle tombe en panne, oh bah mince, elle tombe en panne. Ah bah, pourtant j'ai eu cette confiance. Non, mais ça peut être d'autres choses. Donc, il y a un couplage entre cette confiance ordinaire avec cette croyance erronée que pour une bonne fois pour toutes, ça va être bon en mettant ma confiance là-dedans. Et il y a une forme d'ignorance de croire que c'est tout ce que nous pouvons faire et qu'il n'y a pas d'autre direction. Que la confiance, je peux la tirer. Que des choses extérieures du système, des objets, de mes états intérieurs, de ma personnalité, et qu'il n'y a rien d'autre sur quoi se reposer. Et bien sûr, toutes ces choses sur lesquelles nous déposons notre attention, eh bien nous nous y attachons. C'est sécure, c'est stable, faut que ça reste ainsi. Mais lorsqu'on place notre confiance dans ces choses uniquement conditionnées, et ben en même temps, nous ne pouvons faire autrement que la peur et l'incertitude y soient couplées. Hein? C'est les deux faces d'une même pièce. Si vous regardez bien, cette confiance, elle fluctue tout le temps. Notre confiance en nous, je sais pas pour qui elle est au beau fixe, mais c'est très changeant. Et ça peut changer très vite. Selon que la situation change, qu'une petite critique, vienne nous toucher. Oh, pour un rien, ça change. Ah, ce jour-là, je suis fatigué, j'ai pas toutes mes ressources, je suis pas à 100%. Comment je vais faire? Cette confiance, elle est dans l'autre ou dans le monde, elle est sans cesse à retravailler, à entretenir. Ça va, ça vient. Et Et si je regarde bien, je vois qu'elle est, elle n'est pas immuable. Hein, les institutions, elles se fragilisent. Nos objets s'abîment, se cassent. Même notre soleil, hein, on a très confiance dans notre soleil. Par contre, il y a peut-être pour les scientifiques des tempêtes solaires et que. Et puis pour ceux qui envoient des satellites dans l'espace, ça casse les satellites. Mais fondamentalement, on a assez confiance dans notre Soleil, mais il va aussi finir par grandir, exploser, et puis péter. Hein? Ce corps et cette apparence, hein, dans lequel on aimerait y mettre tant de confiance. Bah, tout d'un coup, il chope un virus, il tombe malade, il tousse, il a le rhume, il est plus très flamboyant. L'apparence, c'est plus trop ce que c'est, ça change. J'avais confiance, mais ça a changé. Donc, les choses, elles bougent. Et en plaçant uniquement toute notre confiance dans ces choses-là, dans les objets, dans l'ego, on n'a pas d'autre moyen que de tenter de les fixer, essayer de les maintenir, de les contrôler, contrôler notre vie, contrôler les situations, contrôler son moi. Derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle la saisie. Tout doit être en ordre dans cet environnement en changement. Et voyez l'énergie que ça génère, voyez la frustration que ça, que ça peut engendrer, l'inquiétude que ça amène, la rigidité que ça peut amener quand on est dans ce contrôle permanent de soi-même, des autres, du monde, de son microcosme. Et plus on va s'attacher à ces choses telles qu'elles devraient être, ou telles qu'on juge qu'elles devraient être, plus on souffre, plus il se crée cette tension entre la réalité du maintenant et la réalité que je fixe dans mon esprit, la représentation que je crée. Et cette tension toute simple, c'est ce qu'on appelle dukkha. Il en est mal de l'insatisfaction, du manque, de l'inquiétude. Donc lorsqu'on pratique la méditation, on apprend petit à petit à trouver la confiance avec les choses telles qu'elles sont maintenant, plutôt qu'avec les choses comme elles devraient être tout le temps. Comment est-ce que je peux trouver la confiance avec l'expérience telle qu'elle m'est présentée et proposée là maintenant? Donc, on est invité à amener cette qualité de présence, de pleine conscience, de rencontrer ce qui se passe ici et maintenant. Comme je vous le disais au tout début de retraite, en fait, c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on vit toujours, c'est maintenant. Si je pense à la mort, si je pense à mes vacances de cet été, si je pense à mon enfance, aux choses qui se sont passées la semaine dernière. Ah, je le fais maintenant. C'est toujours maintenant. Donc, en faisant ce travail de méditation, on est invité à revenir dans l'ici et maintenant et à habituer le corps et l'esprit à avoir confiance avec les choses telles qu'elles sont maintenant. Et la réalité, c'est que J'aimerais toujours être dans le calme, la tranquillité, avoir de temps en temps deux, trois petites expériences spirituelles, transcendantes, ce serait cool. Sentir l'unité, Dieu, les galaxies, l'amour profond. Ouais, être dans une forme de plénitude constante et d'expérience agréable. Mais la réalité, elle n'est pas comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais la réalité, elle est autre, celle qui nous est présentée dans l'instant présent. Donc on est invité à amener cette qualité d'écoute, d'acceptation, d'espace de réceptivité. Et de rencontrer encore et encore ce changement permanent de l'expérience à l'intérieur. Voyez comment, au moment où je sonne le gong, l'expérience, elle change en vous. Peut-être qu'il y a 30 secondes, c'était insupportable, vous en aviez marre, vous aviez envie que ça sonne. Et tout d'un coup, ça sonne. Oh, puis l'expérience, elle change. Ah, ça va mieux, je commence à bouger, je me lève. C'est tout d'un coup moins insupportable. C'est ça, à Nietzsche, à l'impermanence. Mais on était tout crispé avec ce qui se passait. Peut-être qu'on a mis encore de l'aversion sur de l'aversion. Ça devenait vraiment insupportable. On pensait que ça, quelque part en nous, peut-être on pensait que ça allait durer une éternité et que j'allais rester là encore 6 mois. Donc, cet état de cette expérience désagréable. Et 10 secondes plus tard, ça sonne et l'expérience change. C'est assez fou. Mais c'est Ajahn Sumedho qui dit apprendre à faire confiance avec cette présence consciente est un acte de foi, mais c'est aussi très proche de la sagesse. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter jusqu'à commencer à l'apprécier. Je pourrais décrire et développer davantage le sujet. Mais cela resterait une chose que vous devez découvrir par vous-même. Le doute est l'un de vos principaux problèmes parce que vous ne vous faites pas confiance. Beaucoup d'entre vous pensent qu'ils sont le produit de leur passé, de leurs souvenirs, de leur personnalité. Vous en êtes absolument convaincu et bien entendu, vous ne pouvez pas faire confiance à cela. Moi non plus, je ne fais pas confiance à la personne que je suis. Elle est capable de dire n'importe quoi. Je ne peux pas non plus faire confiance à mes émotions, puisqu'elles oscillent et changent tout le temps. Selon qu'il fait soleil ou qu'il pleut, que tout va bien ou que tout s'écroule, mes émotions se mettent au diapason. Ce en quoi j'ai confiance, c'est ma capacité à être présent et conscient. La présence consciente, qui englobe tout, est très simple et absolument naturelle. L'esprit s'arrête et vous vous retrouvez ouvert et réceptif. Même si vous êtes tendu et crispé, ouvrez-vous à cela, en l'acceptant et en l'autorisant à être ainsi. Donc bien sûr, cela, quand on entend amener la présence consciente et regarder comment c'est, ça peut paraître un peu surprenant et étrange. Mais à force de pratique et de rencontres, on se rend compte que c'est vraiment ça. Mais il y a tout un chemin, comment on va cheminer vers cette simplicité de la présence directe et de cette capacité à ouvrir le cœur et l'esprit à l'expérience juste maintenant. Donc on cultive, comme je vous l'ai invité à le faire, un peu la concentration, la stabilité. On exerce des moyens habiles pour établir ou pour permettre au corps d'établir un sentiment de stabilité, de concentration de base. C'est clair que si on ne se sent pas en sécurité juste maintenant, si l'esprit est extrêmement agité, ça va être compliqué de faire de la place et d'offrir de l'espace à l'expérience qui est là. Donc, on va quand même nourrir un petit peu ça. On peut choisir un objet de conscience, la respiration, ou les mains, ou peut-être les sons. On peut amener des petits moyens habiles, comme je vous l'ai présenté ce matin, pour établir une qualité d'attention juste et de permettre un tant soit peu au corps et à l'esprit de se rassembler un peu. On se dépose dans notre gravité, on se dépose dans l'instant, et on permet à cette expérience de relâchement de base d'être expérimentée. Et ensuite, nous cultivons, nous entraînons la pleine conscience de l'instant présent. Il y a le corps, avec les sensations, la respiration, la température, juste là. Il y a les ressentis qui peuvent être agréables, désagréables ou neutres. Il y a toute la sphère de l'esprit et de ses états, concentrés, pas concentrés, agités, pas agités, une émotion, une humeur qui peut être présente. Et nous notons, nous regardons, nous voyons, ah, c'est ainsi. Hein, l'esprit peut construire, hein, des sankharas, l'esprit construit des histoires. Et nous voyons comment dans l'instant, nous nous accrochons aux expériences agréables et nous aimerions les garder, nous les aimons. Et nous pouvons construire aussi souvent, l'esprit construit là-dessus. Et quand une expérience désagréable est là, ah, nous là, nous ne l'aimons pas, j'aime pas, je veux pas. Il y a cette première flèche qu'on ne peut pas empêcher, hein, celle d'être des êtres sensibles, touchés. Hein, il y a des contacts, qu'ils soient mentaux, extérieurs, à travers nos sens, qui font que, il y a des ressentis, des perceptions désagréables qui peuvent être là. Mais ce que nous pouvons éviter, c'est de tirer la deuxième flèche et de réagir à cette première flèche. La douleur, nous ne pouvons pas l'éviter. On peut pas, nous sommes des humains dans un corps d'humain. Nous ne pouvons pas éviter la douleur, mais nous pouvons éviter de souffrir et de rajouter de la douleur sur de la douleur. Donc, lorsque nous méditons et que nous rencontrons l'expérience dans l'instant, nous rencontrons dukkha. Nous habituons le corps et l'esprit à être avec l'expérience désagréable, comme avec l'expérience agréable et neutre. Et petit à petit, nous apprenons à offrir de l'espace et de l'écoute à cela, sans paniquer, sans en faire quelque chose, forcément. À pouvoir se laisser traverser par cette vulnérabilité de l'humain. On aimerait tant éviter, et c'est ce qu'on fait au quotidien, on lutte, on entre en conflit, on évite. Et quand on est en retraite, il n'y a plus d'échappatoire. On est sur notre coussin, tout le monde est là, bouge pas, je n'ose pas sortir. Et on est face à nous-mêmes. On est face à soi. Et cette rencontre, elle est en même temps sacrée, magnifique, mais elle peut être difficile aussi. Donc, ce qui se passe dans cette attitude de rencontre directe avec Dukkha, c'est que petit à petit, on apprend à déposer les armes, à abandonner le conflit, avec ce corps, avec ce cœur, avec ce mental. Amener cette qualité de présence bienveillante, compassionnée. Parfois, on sait qu'on peut aller dans la sagesse et faire de l'espace, laisser être l'expérience, se laisser faire par le dharma, en sachant que tout phénomène conditionné a un début, une durée et une fin. Et parfois, nous sentons qu'il est plus sage d'aller dans la compassion, d'aller prendre soin du moi, s'offrir des paroles de compassion, de bonté. De nous prendre dans les bras, d'amener de la chaleur, de l'écoute. Hein, Thich Nhat Hanh appelait ça l'enfant intérieur. On va à la rencontre de cet enfant intérieur et on le pose sur nos genoux, on reste à ses côtés. On lui offre notre patience. On lui dit oui, moi je comprends. Je comprends pourquoi tu pleures. Pourquoi il y a cette peur, cette inquiétude? Je suis là, je suis là. C'est Jack Kornfield qui dit « On pose les fondations de la compassion en devenant tout d'abord plus sensible à l'égard de soi-même. La véritable compassion naît d'un sentiment de soi équilibré, d'une conscience de ce que nous sommes qui tient compte de nos capacités comme de nos peurs, de notre ressenti et de notre intégrité, en même temps que de ceux d'autrui. Loin d'avoir pour origine la peur ou la pitié, elle est au contraire une réponse profonde et chaleureuse du cœur qui recherche la dignité, l'intégrité et le bien-être de toute créature. » Et à travers cette rencontre sage, dans la compréhension de l'impermanence, que ce sont des phénomènes conditionnés auxquels je m'identifie, mais qui fondamentalement n'ont pas de nature personnelle. Et dans cette qualité compassionnée, avec l'expérience directe, le sens du moi peut se relâcher. Hein, le j'aime pas a moins d'emprise. J'ai moins besoin de lutter pour avoir une bonne expérience ou lutter pour me débarrasser d'une mauvaise. Et quelque chose peut s'ouvrir à cette vulnérabilité humaine. C'est Alphonse Allais qui disait, c'était un comique du 20e, du début du 20e, qui disait, ne nous prenons pas trop au sérieux, il n'y aura aucun survivant. Et d'une certaine manière, c'est ça, c'est lorsqu'on est assis et qu'on se laisse traverser par la vie, on meurt un peu à nous-mêmes. Mais c'est une mort qui appelle à la résurrection et qui nous ouvre à cette vulnérabilité en soi, mais de la nature humaine en général. Quand il y a des fois beaucoup de souffrance, ce n'est pas uniquement mon propre chagrin, mais c'est le chagrin humain que je peux, avec lequel je peux raisonner et qui me permet de m'ouvrir à cela. Et paradoxalement, en même temps qu'il y a cette force de présence qui grandit, qui est là, il y a cette vulnérabilité qui grandit elle aussi. En même temps qu'il y a cette ouverture d'amour, de présence, et de tout, autour, en même temps il y a cette vulnérabilité de savoir que je ne suis qu'un grain de sable dans l'univers, que je ne suis pas grand-chose. Je suis dans l'échelle du temps une goutte qui tombe. Que la vie est précieuse, mais qu'elle peut m'emmener. Qu'elle est éphémère et qu'un jour la mort viendra, la mort de ce corps, tout du moins. Donc nous pouvons même trouver la confiance dans la non-confiance, Hein, une forme de confiance avec la peur. L'autre soir, j'étais là avec toutes ces histoires de... Ah, on tambourine le cerveau avec Trump, avec la géopolitique mondiale, avec tout ça. Et je voyais qu'en même temps, je pouvais avoir peur et avoir confiance. M'en remettre à quelque chose au-delà de ma personne. Parce que finalement, c'est tout ce que je peux faire. Il y a John Shah qui dit, la confiance est en nous et peut être trouvée à la même place que l'agitation et la souffrance. Quand vous expérimentez la souffrance, vous pouvez aussi trouver la fin de la souffrance. Essayer de fuir la souffrance, c'est courir après elle. Et par cette pratique, nous trouvons petit à petit un refuge qui est indestructible, qui est inconditionné, qui ne dépend pas des circonstances. Cette qualité d'attention pure, de présence qui peut être là avec n'importe quelle expérience. Certains l'appellent notre vraie nature, notre beauté fondamentale, la conscience silencieuse, l'esprit originel. Hein, quand nous nous extrayons ou quand le sens du moi se relâche et que nous nous extrayons de l'identification à ces pensées qui tournent tout le temps, de lutter pour ci, de lutter contre ça, de vouloir ci, de vouloir ça, de préférer ci, de préférer ça, et que un mouvement de lâcher prise et de confiance s'installe. Il y a quelque chose de vibrant qui est là derrière, en même temps. Certains l'appellent l'esprit originel, comme j'ai dit, ou l'être profond également. Et là, tel un, la conscience peut être comme un miroir qui reflète la réalité conditionnée de ces expériences changeantes. Certains l'appellent le point immobile. Le fait de pouvoir voir l'impermanence, voir une expérience émerger, durer et passer, implique qu'il y ait quelque chose d'immobile en soi, sinon nous ne pourrions pas percevoir l'impermanence. Qu'est-ce qui est immobile? Qu'est-ce qui ne change pas? Donc on va continuer bien sûr à placer notre confiance. Dans la confiance ordinaire, dans les choses telles qu'elles sont. Mais avec le temps, on va être un peu moins dupe. On va plus faire comme si l'autre, mon moi, le monde, devrait être toujours comme ci ou comme cela, répondre à toutes mes attentes. Nous pouvons sentir quand il est bon d'agir, ou quand il est bon de ne rien faire, quand il est bon de parler, quand il est bon de se taire, quand il est bon de penser, d'analyser, d'investiguer, et quand il est bon de faire le vide. Et tout naturellement, la générosité, la bonté, la patience coulent de source. Quand le soi, le moi se relâche un peu, il y a plus d'espace pour les autres, naturellement. Quand nous rencontrons avec compassion nos difficultés et que nous en faisons l'expérience d'autocompassion, ben naturellement, la compassion grandit pour les autres parce qu'on. On peut comprendre ce qu'ils vivent sans en être submergé. Et dans certaines traditions, on dit que quand ces barrières tombent, ces armures tombent, ces voiles tombent, eh ben, cela révèle la nature même de l'esprit qui est déjà éveillé, déjà bon. Déjà en paix. et qu'on réalise que tout est déjà là, à chaque instant. Il n'y a pas besoin de chercher ailleurs. Et je vais finir avec une parole d'Ajahn Chah. Quant à cet esprit, en vérité, il n'est rien du tout, juste un phénomène. En lui-même, il est déjà en paix. Si l'esprit n'est pas en paix, de nos jours, c'est parce qu'il suit ses humeurs. Une impression sensorielle arrive et elle le rend heureux. Le fait souffrir, le réjouit ou l'attriste. Mais la véritable nature de l'esprit n'a rien à voir avec cela. Cette joie, cette tristesse ne sont pas l'esprit, seulement des humeurs venues nous tromper. L'esprit non entraîné se perd et suit ses humeurs. Il oublie sa véritable nature. Alors nous croyons que c'est nous qui sommes perturbés, heureux ou autre chose. Mais en réalité, notre esprit est toujours stable et paisible. Notre pratique consiste simplement à voir l'esprit originel. Nous devons donc entraîner l'esprit pour être capable de reconnaître ses impressions sensorielles, et ne pas nous y perdre, pour retrouver la paix de l'esprit. Tel est l'unique but de toute cette pratique difficile dans laquelle nous sommes engagés.